marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Louise l'Européenne, une Française du XXe siècle, une artiste prolo, une impie respectueuse.
Louise Weiss, pionnière du féminisme et doyenne du Parlement européen.
Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver, il me semble, en cet instant. N'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre.
Européenne 1979, les premières au suffrage universel direct, Louise Weiss a joué d'un avantage, son âge, 86 ans. Elle a dit « Je serai la doyenne ». Avec moi, ce sera une Française qui présidera la première séance de Strasbourg. Et double chance pour notre pays, Louise Weiss va passer ses pouvoirs d'un jour à sa collègue, élue à la présidence, une Française encore, une jeunette, dit-elle, Simone Veil. Le discours que prononcera Louise Weiss ce 18 juillet 1979 sera le dernier grand tour d'une femme qui, sa vie durant, a inventé toutes sortes de gestes pour attirer l'attention. Il connaîtra davantage qu'un succès de curiosité. Il est vrai qu'il excédera les codes. Elle convoquera les noms des grands anciens. Entrez Victor Hugo, entrez Aristide Briand, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle. Et cette maîtresse femme réussira à faire se lever ses collègues pour une minute de silence à leur mémoire. Mesdames et messieurs les députés, vous détenez les étincelles, rallumez les phares. Avant la robe noire, le triple collier de perles et la médaille d'officier de la Légion d'honneur qu'elle affichera ce jour, on lui a connu toutes sortes de tenues au long du siècle. Éditorialiste et reporter, maîtresse de salon dans son hôtel particulier de l'avenue du président Wilson à Paris, romancière, voire auteur de théâtre, conductrice de deux chevaux dans les rues de Paris et sur les routes du monde où elle réalisa une trentaine de films documentaires. La cause européenne la vit toujours infatigable, sauf au milieu des années 30 où elle en désespéra. Elle a élu alors un combat de substitution, le droit de vote des femmes, et rarement le féminisme fut aussi inventif que pendant cette brève période où elle l'incarna.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Louise Weiss, donc, elle est née en 1893 d'une famille d'origine alsacienne, déjà Strasbourg. Famille riche, qu'elle jugera toujours corsetée dans ses obligations. Les valeurs de la maisonnée installée à l'orée du bois de Boulogne, le sens du devoir vis-à-vis de la patrie et de la République. On est Dreyfusard chez les Weiss. La volonté aussi de sacrifier aux apparences de la vie mondaine, quoi qu'il arrive. Et le silence sur les choses du cœur et de la chair. Exemple, Louise passera son agrégation de lettres en catimini, son père estimant que les diplômes gênaient les perspectives de mariage pour une jeune fille convenable. « J'aurais préféré avoir un fils premier à Polytechnique », lui dira-t-il. Et sur son lit de mort, il lui confiera cette parole terrible. « J'ai toujours haï ta liberté parce que je n'ai pas réussi, moi, à préserver la mienne ». En revanche, chez les Weiss, il est naturel de se sentir européen, d'être polyglotte. Et en la matière, Louise suivra la veine familiale.
Mesdames et messieurs les élus de l'Europe, je vous demande votre accord. Your agreement. Ihre Zustimmung. Il vostro consenso. Uwe Kant. Der Stelznüstling et go me suis le carré. Danke, grazie, danku, tak et bienvenue, Force. Oui, bienvenue et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur.
Alors ça, c'est pas belle. Européenne, vue par Louise Weiss au Parlement européen à la fin de sa vie en 79, en 14, juste après son agrègue. Babel se transforme en champ de bataille. Et la jeune Louise devient journaliste, d'abord sous pseudonyme, puis sous son propre nom. De ce conflit qu'elle juge suicidaire, elle veut tirer des leçons. Et en janvier 1918, elle commence à animer une publication de réflexion qui entend préparer l'avenir du continent, l'Europe nouvelle. Elle s'intéresse particulièrement aux États qui vont surgir des décombres de l'Empire austro-hongrois. Dès 1918, la Tchécoslovaquie prépare ainsi son indépendance. Et un Slovaque de peu d'apparence se consacre à l'aspect militaire de la question. Il va séduire Louise Weiss. C'est Milan Štefanič. Pour constituer la légion de soldats dont il a besoin, il est allé jusqu'en Sibérie chercher des prisonniers qui, venus de Bohême ou de Slovaquie, avaient combattu sous l'uniforme austro-hongrois et s'étaient retrouvés aux mains des Russes. Louise va appartenir tout entière au grand dessein de Milan Štefanič. Il a beau lui annoncer ses fiançailles avec une jeune marquise italienne. Bah, toi, tu réfléchis constamment. C'est une vierge que je veux présenter à mon peuple. Louise n'en démord pas. Štefanič meurt le 4 mai 1919 dans la chute de l'avion qui devait le ramener vers son pays qu'il attendait en héros.
Štefanič était un homme plus âgé que moi, nettement, qui était d'une apparence physique tout à fait minable. Il était grêlé par la petite vérole. Il avait été très amoindri dans ses forces physiques par la guerre. Il souffrait d'un ulcère de l'estomac. Et en même temps, ses yeux clairs irradiaient une telle volonté, une telle force, une telle foi qui m'a subjugué. C'était tellement différent de tous les bourgeois qui m'entouraient, de tous ceux qui allaient tous les matins à leur travail et le soir étaient contents de retrouver un lendemain égal, que vraiment, je me suis éprise de ce type d'homme. Et Štefanič a voulu rentrer en premier dans la République tchécoslovaque qu'il avait donc créée. Et Štefanič a voulu rentrer en premier dans la République tchécoslovaque qu'il avait donc créée. Et son avion s'est écrasé au sol. Donc il n'a pas vu son œuvre. Je dois dire que nos rapports ont été tout à fait platoniques. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et ça a été même une sorte de malheur pour moi, parce que j'ai appris à séparer le physique du moral à ce moment-là. Et c'est peut-être une séparation qui handicape certains sentiments et rend plus difficile d'autres.
Il est rare que Louise Weiss se livre à pareille confidence. D'une rose que Štefanič lui offrit un jour et la gardait dans une boîte précieuse, tous les pétales flétris. On pense à Chanel qui, à la même date, vécu le même drame en partie double. L'amant, officiellement uni à une autre femme, mais qui vient toujours, et l'accident, soudain, et il ne revient plus. Ni Louise ni Chanel ne voudront ensuite dévoiler la faille. Dans les premières années de l'après-guerre, Louise multiplie pour le Petit Parisien et l'Europe nouvelle les reportages au long cours dans le centre et l'est du continent plongé dans la misère. Jusqu'en Russie soviétique, où Trotsky lui fait entendre une soufflante anti-française. À Genève, où elle va souvent, l'activité de la Société des Nations, nouvelle créée, nourrit ses espoirs. En 1925, à Locarno, les anciens belligérants signent un pacte qui fait figure de promesse. L'Italie de Mussolini les a accueillis. Stresemann, pour l'Allemagne, s'engage à respecter la zone démilitarisée de la Rhénanie et à ne pas violer à l'est les frontières de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Le chef d'orchestre de ce pacte qui paraît miraculeux, c'est Aristide Briand, dont Louise Weiss à Strasbourg, plus tard, en 79, évoquera encore la voix en tuyau d'orgue. À propos de voix, celle-ci, incomparable aussi, Geneviève Tabouy. Une autre journaliste, est-ce chose internationale, la symétrique de Louise Weiss, qui partage pour Briand le même enthousiasme.
La Société des Nations a rendu d'immenses services. Locarno, qui a été un grand succès de la Société des Nations, fierté de chez tous ces diplomates, car en somme, on venait d'inventer une nouvelle forme de pacte pour la première fois dans le monde. Vainqueurs et vaincus s'étaient assurés mutuellement leur sécurité en signant le même traité, en s'ouvrant un avenir commun. C'était vraiment extraordinaire. Et cet enthousiasme eut connu son comble peut-être lorsque, en 26, l'année d'après, Aristide Briand accueillait comme membre de la Société des Nations le chancelier d'Allemagne, Stresemann. Et c'est là, vous vous souvenez, où Briand a fait le fameux discours « Arrière les canons, les mitrailleuses, arrière les voiles de deuil, place à l'arbitrage, à la sécurité, à la paix. »
Monsieur le Président, mesdames, messieurs, premier délégué de la France, je viens apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la Société des Nations. Les nations réunies pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte. Si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre, dans l'avenir, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer, les peuples pourront se réjouir, les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements, car la situation sera nette, elle sera éclaircie, elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations et qui est encore, dans la crise actuelle, une des causes profondes de sa réalité.
Louise est maintenant inséparable d'Aristide Briand. Plus tard, en 1979, au Quai d'Orsay, où elle viendra trouver des appuis à sa candidature aux européennes, un jeune diplomate, Claude Martin, la conduira par les couloirs qu'elle a bien connus, et soudain, elle s'arrêtera devant une porte dérobée. C'est là que je passais pour rejoindre le président. Louise accompagna aussi le président dans beaucoup de voyages. L'ultime voyage, c'est en Allemagne, 1931. Stresemann, le médiateur, est mort en 1929, l'année où la crise internationale vint creuser les abîmes de l'économie allemande.
Je me trouvais à côté de Briand lorsque le train, qui nous emmenait tous les deux, a franchi la frontière franco-allemande un peu avant Aix-la-Chapelle. Briand regardait le paysage, il faisait déjà nuit, on voyait quelques lumières dans la campagne. Il avait reçu beaucoup de fleurs aux stations auxquelles il s'était arrêté en France. Il allait en recevoir davantage encore en Allemagne. Et pour lui, qui avait été l'artisan, un des artisans politiques dans les cabinets de guerre de la victoire de la Troisième République sur les armées de Guillaume de Hohenzollern, pour lui, ce franchissement pacifique de la frontière était quelque chose de tellement extraordinaire qu'il a eu une exclamation dite à voix presque basse, mais avec une sorte d'émerveillement. Décidément, tout arrive. Et pour lui, il était extraordinaire d'être reçu en ami à Berlin, parce que les souvenirs de la guerre de 14 n'étaient pas encore relégués dans l'histoire. Lorsque nous sommes descendus au petit matin à la gare, les officiels sont venus le recevoir. Il y avait quelques applaudissements, il y avait quelques bouquets de fleurs de la part de ceux qui voyaient en lui le pèlerin de la paix. Mais il y avait aussi, à l'arrière-plan, contenu par des cordons de police très serrés, tous les opposants. Tous ceux qui sortaient de l'Allemagne du désastre de l'inflation, tous ceux qui seraient ensuite, je dirais, les suivants de Hitler. Et Hitler, très régulièrement déjà, tenait d'immenses conférences publiques où il expliquait toute la pensée que nous lui connaissons. Je me souviens très exactement que dans une conversation privée dont j'ai été l'interprète entre Briand et le chancelier Brüning, qui, comme vous le savez, était un catholique fervent, j'ai entendu Bruning dire à Aristide Briand, « Monsieur le Président, si nous ne parvenons pas à une entente entre la France et l'Allemagne, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se déchaînera ici contre la civilisation. »
Le pèlerin de la paix, le perpétuel ministre français des Affaires étrangères, ne verra pas l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il meurt le 7 mars 1932. Geneviève Tabouy, de Rochef.
Aucun homme d'État à sa mort, je peux vous l'assurer, n'a suscité autant d'affectueux regrets. J'ai vu Haussène Chamberlain, Bénèche pleurer à chaudes larmes. Et le 11 et le 12 mars, derrière le cercueil qui avait été placé au quai d'Orsay dans le salon de l'horloge, nuit et jour défilait le petit peuple de Paris qui apportait des fleurs. Et lorsque, le lendemain, le convoi a traversé le pont de la Seine et s'est engagé, place de la Concorde, c'était une mer humaine. Et on entendait se lever partout, vous savez, comme dans les tragédies antiques, le cœur, la paix, comme si pour tous les gens qui étaient là, la paix devait s'en aller toujours.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Revenons, c'est notre thème aujourd'hui, à la voix de Louise Weiss. L'air se rembrunit. Louise quitte l'Europe nouvelle et bientôt suspend l'école de la paix qu'elle avait fondée. Elle ne sera pas des rangs des pacifistes à tout craint de la fin des années 30. Et sans crier gare, elle passe au combat féministe. Combat de substitution pour ne pas désespérer, commente sa biographe Célia Bertin. Il est à noter d'ailleurs que c'est le seul moment bref de sa vie où elle a un mari ou un demi-mari. Le débat sur l'extension du suffrage universel, dit universel, fait alors rage. Et le principal obstacle, c'est le Sénat. Louise s'élance, elle a besoin d'un sujet qu'elle puisse faire avancer avec des méthodes publicitaires. Alors aux vieilles associations féministes, elle dit « tant que vous vous confinerez aux prédications confidentielles, vous ne réussirez pas ». Et elle s'entoure de femmes appréciées du grand public, des aviatrices par exemple, Adrienne Bolland, Maryse Bastier, Hélène Boucher, et en mai 1935, elle se présente au municipal à Paris, organisant des bureaux de vote à l'air libre, où des cartons à chapeau servent d'urne.
J'avais posé ma candidature aux élections municipales dans les 7 circonscriptions de la Butte-Montmartre. Arrondissement aux idées généreuses et par tradition acquis aux nobles causes. Pour le jour du scrutin, nous avions organisé 36 sections de vote officieuses à l'aide de 100 volontaires. La police ayant dispersé nos installations, nos sections de vote se sont réfugiées sous les portes cochères et dans les cafés grâce à l'obligeance de commerçantes et de concierges féministes. Cependant, j'ai cru devoir tenir jusqu'au bout une urne symbolique de notre droit, et pour la défendre, j'ai manié la poudre de riz, s'entend.
Vous étiez conduite au commissariat de police, alors que s'est-il passé?
Eh bien, le commissaire m'a enfermée dans le cachot avec des prostituées et avec des pocheurs, et ensuite il a demandé des ordres en haut lieu, comme l'on dit. Et ces ordres ont abouti à une conversation directe entre moi et le préfet de police. Et le préfet de police m'a demandé de mettre fin à mes incongruités sur la voie publique.
Vous pensez bien que Louise Weiss n'est pas femme à renoncer. En 1936, elle lance des ballons au-dessus du stade de Colombes où se joue la finale de la Coupe de France de foot. Et quelques semaines plus tard, à l'hippodrome de Longchamp, ses compagnes et elle remontent allègrement la piste au moment précis où les chevaux vont s'élancer.
Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associés à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. Afin d'obtenir ce statut, nos associés et nos sympathisants, 100 000 adhésions, ont été jusqu'à l'extrême limite des moyens légaux. Elles ont jusqu'à présent mené leur propagande avec un courage et une bonne humeur dont le pays a été le témoin. Toutes les promesses leur ont été faites. Quelles sont celles qui ont été tenues? On en est encore à parler de conseillères municipales adjointes facultatives désignées, sinon élues. C'est insuffisant.
Les militantes du groupement La Femme Nouvelle donnent une aubade burlesque à M. Merlin, sénateur. Elles lui reprochent d'avoir fait ajourner une proposition du groupe féministe du Sénat ayant pour objet la nomination de conseillères municipales adjointes.
Le Sénat, voilà la citadelle anti-féministe dont il nous faut vaincre la résistance.
Madame Veil, ces sénateurs, que vous avez-ils fait au juste?
Eh bien, ces sénateurs s'étaient opposés à toutes les réformes envoyées sous forme de projets ou de propositions par la Chambre des députés. C'était donc le bastion qu'il fallait enlever.
Vous étiez pourtant pleine d'attention à leur égard. Vous leur offriez des chaussettes.
Ah oui, ils nous avaient renvoyé à nos chaussettes officiellement. Alors nous leur avons apporté des chaussettes pour leur montrer que tout en réclamant nos droits, nous étions tout de même de bonnes ménagères et que nous pouvions repriser les dites chaussettes.
On sait que la question du suffrage féminin ne sera pas résolue avant la grande catastrophe. Louise Weiss voit celle-ci venir. Elle passe à un autre militantisme en 38-39, l'effort d'armement. Le dernier grand amour de Louise Weiss, qu'on ne connaît que sous le nom de chevalier de Saint-Magloire, trouve la mort en 1940 en défendant le pont des Anglis face aux Allemands. Encore une fois, la vie ne sera plus pareille. Les Weiss, enjuivés selon les critères des lois raciales, sont inquiétés pendant l'occupation. Et Louise a toutes les peines du monde à faire retirer son nom des listes du commissariat aux affaires juives. Paradoxe, plusieurs des membres de sa famille, qu'elle aurait eu tendance à considérer comme conformistes, s'engagent dans la résistance bien davantage qu'elle, la femme réputée libre. Ainsi, en 1944, son frère André est-il nommé commissaire de la République à Montpellier, tandis qu'elle va devoir attendre avant de retrouver une place qui lui sied. Elle ne sera pas, par exemple, d'une équipe des journaux issus de la résistance. Il lui reste à reprendre la route, en France, les conférences. Dans le vaste monde, la réalisation de films, on en comptera au moins 30. Et elle ne se déplace pas en n'importe quel équipage. Il lui faut se faire remarquer. Jusqu'en Afrique, elle utilise comme fétiche la deux chevaux.
Je fais tic-tic, je fais pouet-pouet, tout de suite mon cœur est en fer. Très bien assis dans ma deux chevaux, je suis comme un poisson dans l'eau. Pas besoin de sauver le capot, ça tourne.
Je fais tut tut,
je fais pouet pouet, ma petite de chevaux, parce qu'elle est chouette.
À la deux chevaux, Louise Weiss ne laisse à personne le soin d'organiser sa publicité. Les films qu'elle réalise avec le fidèle Georges Bourdelon lui permettent non seulement de garder des admirateurs, mais de rencontrer des personnalités et de considérer le monde d'un point de vue à 360 degrés. Elle met les connaissances ainsi acquises et ses réflexions passées au service de l'Institut de polémologie de Gaston Boutoul. Polémologie, la guerre mérite une science qui l'étudie si on veut maintenir la paix.
La société a-t-elle changé? Un peu, une conscience planétaire est née, autre que celle sous-jacente aux écuménismes religieux. Fait capital maintenant, tout le monde se connaît et chacun sait qu'il doit vivre avec l'autre. Mais comment? Le problème n'est pas tranché. Beaucoup. Les sociétés de consommation crèvent de pléthore et les sociétés de pénurie crèvent de surpopulation. Jamais leur inégalité n'avait atteint la cote d'alerte actuelle. et la démographie générale demeure aberrante. D'autre part, les marchands de canons survolent allègrement les barbelés qui hérissent notre petite boule, proposant à tous leurs camelotes destructrices. Les intérêts des pays vendeurs d'armes et les intérêts de leurs clients finissent par être tellement embrouillés qu'il est devenu impossible de dire lesquels tiennent lesquels en leur dépendance. Passionnément, la chevauchée des intelligences vers l'horizon des connaissances a pris l'allure d'une ruée. Les savants sont des passe-murailles. À la folie, à droite comme à gauche, en regardant l'étoile polaire, l'humanité, malgré son incursion dans l'infini des connaissances, donne l'impression, quant à son comportement, de se muer en insecte unifié, ou mieux dit, en robot téléguidé. Les conflits qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, ne cessent d'ensanglanter l'univers, ne sont locaux qu'en apparence, qualifiés de tels pour rassurer les peuples qui ne veulent plus se battre, ou pour masquer des volontés de puissance résolues à conquérir le monde. Pas du tout. Les volontés de puissance demeurent entières, et la raison du plus fort est la meilleure.
C'est un extrait des Mémoires d'une Européenne en 4 volumes que Louise Weiss fait paraître avec un certain écho. Mais elle peine à retrouver une place politique en France. Elle demeure cependant aux aguets et en 1979, elle saisit l'ultime opportunité. L'élection du Parlement européen au suffrage universel. Simone Veil sera élue à la tête de la liste giscardienne et elle se glisse dans la liste de Jacques Chirac. Et, comme elle l'avait dit à son leader, eh ben, ce sera à elle, la doyenne, d'assurer le discours d'ouverture du nouveau Parlement européen à Strasbourg.
Parmi les plus éclatants des fils de Zeus et de la nymphe Europe, j'appellerai mes contemporains qui, pour main d'entre vous, font déjà figure d'anciens. Entrez, Gustav Stresemann. Entrez, Aristide Briand. Entrez, Paul Valéry. Entrez, Richard Coudenhove-Kalergi. Entrez, Robert Schuman et Jean Monnet.
Jacques Chirac a si peu de considération pour le Parlement européen qu'il a prévu de substituer à ses élus leur suivant sur la liste, et cela au bout d'une année. Ça s'appelle la règle du tourniquet. Alors, imaginez, lorsque le couperet approche, Louise Weiss refuse. Elle tient un salon à Strasbourg pendant les sessions. Elle intervient beaucoup dans et hors de l'enceinte. Elle voit pas pourquoi elle quitterait la lumière enfin retrouvée. Et elle mourra députée européenne en 1983.
Que cette journée historique ne s'achève pas sans qu'une flamme nouvelle ait brillé aux cieux de notre civilisation en travail de rajeunissement, et que cette flamme, ce soit vous qui l'ayez allumée ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation continentale.
Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco pour la préparation de cette émission. Audrey Ripouille pour la réalisation. Loïc Frapsos à la technique. Et chez vous, le club des têtes au carré, Mathieu?
Oui Jean, un petit peu d'histoire. Les savants pendant la Deuxième Guerre mondiale, Étienne Klein sur scène et comment sauver les oiseaux. Voilà le programme.
Dans quelques minutes.